Vous écoutez, on lit pour vous.
Près de 80 femmes rapportent avoir été stérilisées de force. Un texte de Louise Leduc, paru le 26 mai 2026 dans la presse. 77 femmes des Premières Nations disent avoir subi dans le passé une stérilisation forcée. Les témoignages de victimes, réunis dans un rapport paru le mardi 26 mai 2026, ont été consignés par des chercheurs de l'École d'études autochtones et de la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador. Les 77 témoignages de stérilisation imposés et entendus ne représentent certainement qu'une partie de la réalité, peut-on lire, car plusieurs femmes des Premières Nations n'ont pas pu participer à la collecte des données, tandis que d'autres sont sans doute décédées avant que l'on puisse entendre leur voix. Il n'est donc pas possible de déterminer avec exactitude le nombre de femmes des Premières Nations stérilisées sans leur consentement au Québec. Dans une grande partie des cas décrits dans le rapport intitulé « Violences obstétricales et gynécologiques et stérilisation imposée de femmes des Premières Nations au Québec », les témoins ont dit ne pas avoir signé de formulaire de consentement pour leur stérilisation. D'autres ne sont pas certaines de l'avoir fait, tandis que d'autres encore ont signé un formulaire de consentement dans des circonstances préoccupantes, allant de signatures sous la pression, exécutées en plein travail d'accouchement ou avec la main soutenue par le personnel soignant. Parmi les témoignages recueillis, celui-ci. En 1981, c'était ma cinquième grossesse. À un rendez-vous de suivi, je lui ai dit à la médecin que je voulais une ligature après cette grossesse-là. Elle m'a répondu. De toute façon, même si tu ne me l'avais pas demandé, je l'aurais fait faire. Extrait du témoignage d'une des victimes. Je ne pensais même pas que quand j'allais accoucher, j'allais sortir de là ligaturée. Ils m'ont dit que j'allais me sentir bien, plus légère, plus confiante. Une autre encore. Le médecin m'a dit « Tu vas te faire endormir ». Je me suis fait endormir. Je n'ai pas posé de questions. Puis là, je me suis réveillé. Il m'a dit qu'il m'avait fait opérer, que je n'allais plus avoir d'enfant. Et une autre. Je l'ai su seulement 23 ans plus tard que je n'avais plus rien pour tomber enceinte. C'est juste début août 2024 que j'ai su qu'ils m'ont enlevé mes deux ovaires et mon utérus. Ils ont vu cela dans un scan, ici à l'hôpital. Évidemment, tout cela est lourd de conséquences, font observer les auteurs. Les violences vécues se répercutent sur la santé psychologique, physique et sexuelle des femmes rencontrées et elles laissent des séquelles indélébiles sur leur féminité et leur spiritualité, des piliers de l'identité en contexte autochtone. Les violences rapportées se répercutent également sur le couple, la famille, voire la communauté. Une femme dira « Je savais que je ne pouvais pas avoir d'autres enfants, alors lui, il a eu une autre vie, il a fait d'autres enfants, et cela a amené à leur séparation. » En somme, personne n'est épargné, est-il écrit. La confiance envers le système de santé s'en trouve forcément ébranlée, et plusieurs femmes autochtones vont éviter autant que possible d'y avoir recours par la suite. Excuses et moratoires. Entre autres recommandations, les auteurs suggèrent des excuses officielles à toutes celles qui ont été victimes de violences obstétricales. Ils souhaitent aussi que ces violences soient reconnues comme trauma, au même titre que tout autre découlant du colonialisme. Pensionnats indiens, rafles des années 1960, retraits et placements massifs d'enfants autochtones par les services sociaux, femmes et filles autochtones disparues et assassinées, enfants disparus dans les établissements de santé et des services sociaux, etc. On espère aussi un moratoire sur la destruction des dossiers médicaux susceptibles d'appartenir à des personnes issues des Premières Nations. Ce rapport marque une étape décisive pour les femmes des Premières Nations au Québec, explique Derek Montour, président du conseil d'administration de la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador. Derrière chaque témoignage se trouvent des histoires portées avec courage et résilience, celles de mères, de sœurs, de filles et de grand-mères. En prenant la parole, elle trace le chemin vers des soins de santé et des services sociaux plus dignes et sécuritaires pour elle et pour toutes les générations qui suivront. Similitude avec les femmes du Groenland. Dans les années 1970, majoritairement sans consentement et dès 13 ans dans certains cas, une Groenlandaise sur deux s'est vue poser un stérilet dans le cadre de la campagne de contraception sur cette île relevant du Danemark. Au moins 4070 femmes, déjà fin 1970, avait reçu un stérilet, a conclu l'enquête présentée en septembre 2025, une dizaine de jours après les excuses officielles aux victimes de la première ministre danoise, Mette Frederiksen. C'était « Près de 80 femmes rapportent avoir été stérilisées de force », un texte de Louise Leduc, paru le 26 mai 2026 dans la presse.
Comment le gras est-il éliminé? Un texte de Mathieu Perrault, paru le 24 mai 2026 dans la presse. Marie-Ève Leduc, une lectrice, demande « Quand on maigrit, comment la graisse est-elle éliminée? » Contrairement à la croyance populaire, le gras éliminé durant une diète ne se transforme pas uniquement en énergie. Une partie est évacuée du corps sous forme de dioxyde de carbone et de vapeur d'eau, principalement des poumons. Beaucoup de gens, même des professionnels de la santé, pensent que le gras qu'on perd quand on maigrit devient de l'énergie ou de la chaleur, explique Ruben Mirman, un communicateur scientifique australien qui a publié une étude sur la question en 2014. Mais lorsqu'on brûle du gras, on l'oxyde, comme quand on brûle du bois. En se combinant à de l'oxygène, 1 kg de gras se transforme en 3,9 kg de matière, rappelle M. Mirman. M. Mirman est surnommé le scientifique surfeur en Australie. Il est devenu une vedette médiatique après un baccalauréat en physique. L'étude qu'il a publiée dans le numéro de Noël du British Medical Journal en 2014 fait partie d'une tradition de recherche mêlant pragmatisme et humour. Cette réflexion a mené en 2016 à la publication du livre « Big Fat Myths ». Le malentendu au sujet de la perte de gras est causé par le mantra sur les calories « Energy in » Energy out, dans les discussions sur les régimes, dit M. Mirman. Il faut diminuer les calories et en dépenser davantage. Plusieurs ont aussi l'impression que le gras est transformé en muscles ou en excréments. La transformation de gras en seule énergie violerait toutefois une loi fondamentale en chimie, la conservation de la masse. On connaît depuis les années 1940 l'équation de l'oxydation des triglycérides du gras humain, mais curieusement, personne n'avait calculé les masses impliquées, dit M. Mirman. Plus des deux tiers de la masse produite par l'oxydation du gras humain sont du dioxyde de carbone, CO2. Dans le cadre de son étude de 2014, M. Mirman a demandé à 150 médecins de famille, diététistes et entraîneurs personnels où se retrouve le gras qui disparaît quand on maigrit. La grande majorité a répondu « en énergie ou en chaleur » et seuls des diététistes, à hauteur de 5 % d'entre eux, ont répondu « CO2 et H2O ». Cela dit, 30 % des médecins ont répondu « autre », ce qui laisse penser qu'ils étaient au courant du principe de la conservation de la masse, note M. Mirman. Exercice et alimentation. L'exercice a permis à M. Mirman de confirmer par l'équation chimique de l'oxydation des triglycérides que pour maigrir, il faut surtout moins manger. Chaque jour, au repos, on exhale 203 grammes de carbone, la base du gras humain. Si on fait une heure d'exercice comme du jogging, on enlève 20 % plus de carbone, 240 grammes. Mais un seul muffin contient plusieurs dizaines de grammes de carbone. Faire de l'exercice pour perdre du poids peut facilement être une peine perdue si on fait de petits excès de table. Malgré tout, il y a encore des inconnues en ce qui concerne le rôle du métabolisme dans le gain et la perte de poids. Quand on a un métabolisme plus rapide, on brûle plus de gras, dit-il. En savoir plus. Source Santé Canada. 26 % proportion des Canadiens qui sont obèses, IMC entre 30 et 40. 35,5 % proportion des Canadiens qui font de l'embonpoint, IMC entre 25 et 30. 3,5 % proportion des Canadiens qui sont obèses morbides, IMC supérieur à 40. C'était « Comment le gras est-il éliminé? » un texte de Mathieu Perrault, paru le 24 mai 2026 dans La Presse.
Le Québec dans le vent. Un texte d'Alexis Riopel paru le 16 mai 2026 dans Le Devoir. Hydro-Québec assemble les pièces de son casse-tête éolien en vue de 2035. Au Québec, le vent souffle fort dans le monde des éoliennes. Depuis l'automne 2023, Hydro-Québec se donne officiellement pour objectif d'ajouter 10 000 mégawatts de capacité éolienne à son réseau d'ici 2035. Cela correspond à l'installation de 1 700 turbines modernes de 6 MW chacune. Si cette ambition se réalise, la production québécoise d'énergie éolienne va plus que tripler, ajoutant 30 TWh par année. 2 ans et demi après la promulgation de cette cible, les pièces du casse-tête se mettent en place. Hydro-Québec et ses partenaires érigent des turbines, élaborent des projets, étudient des sites, signent des ententes. « Tous les voyants sont au vert », affirme Matthew Johnson, vice-président principal à Hydro-Québec et responsable du dossier éolien. La cible des 10 000 MW paraît toujours réaliste à la société d'État qui aligne ses décisions pour l'atteindre. Des défis de taille subsistent. Consolider le soutien des collectivités, amenuiser les conséquences des projets sur la biodiversité, obtenir les autorisations nécessaires, trouver l'essentiel main-d'œuvre. D'ici 2032, Hydro-Québec veut mettre en service de 1 000 MW à 1 500 MW de capacité éolienne par année, soit le triple du tempo des années 2010. Pour cela, elle aura besoin que l'industrie éolienne mette la main à la pâte. Il faudra que cette machine-là soit bien huilée, dit M. Johnson. Il y a quelques semaines, la trajectoire vers l'objectif de 2035 s'est précisée. Hydro-Québec a présenté les détails d'un nouvel appel d'offres pour des projets éoliens pilotés par des promoteurs indépendants dont la mise en service s'échelonnera de 2031 à 2038. Avec cet appel d'offres, l'entreprise publique veut acquérir de 1 500 MW à 3 000 MW de puissance éolienne, voire davantage. Elle sollicite les projets dans le sud du Québec, où elle pourra facilement les raccorder à son réseau. Les propositions seront récoltées en 3 rondes, dont la première clôturera en février 2027. Cet appel d'offres sera le dernier à contribuer à la puissance installée en 2035 avec environ 2000 MW. Des projets issus d'appels d'offres antérieurs, totalisant 2700 MW, entreront aussi en service d'ici 2030. Et le projet Apouyat, sur la côte nord, ajoute 200 MW au compteur. Il y a aussi les 3 projets des neiges, 1200 MW au total, développés par Boralex, Énergir et Hydro-Québec dans la capitale nationale, et dont certaines turbines projetées empiètent sur l'habitat du caribou. La construction vient de commencer. Cependant, à moyen terme, la stratégie d'Hydro-Québec se focalisera sur les zones structurantes, où elle entend piloter le développement de grappes éoliennes de grande envergure avec des partenaires locaux. Depuis 2024, 50 ententes ont été conclues avec des Premières Nations et des municipalités pour créer des zones structurantes. Ces zones sont situées en forêt au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans Chaudière-Appalaches, dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Les ententes paraffées prévoient une production jusqu'à 12 500 MW d'énergie éolienne, une puissance énorme, équivalente, quand il vente, à plusieurs grandes centrales hydroélectriques. Les mises en service seront toutefois étalées dans le temps. En conséquence, même si le développement des projets se fait rondement, comme Hydro-Québec l'espère, seule une fraction de ces 12 500 MW seront disponibles en 2035. Selon des informations transmises par Hydro-Québec au Devoir, la Société d'État envisage la production d'environ 2 600 MW de puissance dans les zones structurantes d'ici 2035. La puissance totale des projets planifiés en vue de 2035 s'élève donc à 8 700 MW, ce qui place Hydro-Québec près de son objectif de 10 000 MW, sans pour autant lui permettre de l'atteindre. Certains projets pourraient toutefois être devancés et d'autres opportunités pourraient s'ajouter. Notre souhait, c'est d'excéder notre cible. 10 000 MW, ce n'est pas un plafond, c'est un plancher, explique M. Johnson. Nouveaux détails sur les zones structurantes. Dans la zone Chamouchouane, à l'ouest du lac Saint-Jean, deux projets, totalisant 600 MW, nommés Uchikao 1 et 2, sont très bien avancés. Le réseau local est prêt à les accueillir. Une mise en service pourrait se produire dès 2030. La Première Nation Pekwaka-Miulnuach, qui fait partie des partenaires de la zone, veut toutefois juger des projets Uchishko avant d'aller de l'avant avec les phases ultérieures de la grappe éolienne de 3000 MW sur son territoire. La zone Nutinamouche-au-Vent, au nord du fjord du Saguenay, où on prévoit la production jusqu'à 1000 MW, avance aussi à un bon rythme, selon M. Johnson. Les mises en service pourraient commencer au début des années 2030. Dans la zone Wauquasun, au Kamouraska, on installe ce printemps des mâts de mesure de vent pour décider où placer les turbines. La grappe de 1000 MW doit être développée en deux ou trois phases avec des mises en service avant 2035. Un appel d'intérêt est en cours pour trouver un promoteur privé qui participera à la zone Wauquasun, précise M. Lagacé, président de l'Alliance de l'énergie de l'Est, un regroupement municipal et autochtone qui est le partenaire d'Hydro-Québec dans cette zone. Les zones structurantes obéissent à un modèle d'actionnariat partagé à 50-50 entre Hydro-Québec et ses partenaires locaux. Ceux-ci peuvent toutefois décider de céder une partie de l'actionnariat et des risques à des promoteurs privés. Dans le cas de Wauquasun, le rôle d'un possible partenaire privé, concepteur, bâtisseur, exploitant, actionnaire, n'est pas encore fixé. Cela se précisera d'ici quelques mois à l'issue de l'appel d'intérêt, dit M. Lagacé. L'Alliance de l'énergie de l'Est participe à deux autres zones structurantes. L'entente Wet'suwet'en dans les MRC de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup et Témiscouata, ainsi que la zone Gaspégué-Ouagui, englobant toute la Gaspésie et une partie du Bas-Saint-Laurent, qui fait l'objet d'une signature conjointe avec les Mi'kmaqs de Gaspésie. La planification de ces deux zones est toutefois encore très préliminaire. La zone Gaspégué-Ouagui, qui nécessitera une nouvelle ligne de transport, ne débouchera vraisemblablement sur aucune mise en service avant 2035. Rappelons que la moitié de l'énergie consommée au Québec est fossile. L'État promet que les nouvelles éoliennes permettront la décarbonation, tandis que ses critiques clament qu'elles serviront avant tout un développement industriel coûteux et nuisible à la nature. La contribution actuelle des éoliennes. En 2025, l'ensemble des éoliennes du Québec ont généré une puissance moyenne quotidienne de 1309 MW. Cette puissance varie au gré des vents. En hiver, de décembre à mars, les moyennes quotidiennes ont oscillé entre 217 MW et 3135 MW. Si Hydro-Québec atteint son objectif d'ajouter 10 000 MW de capacité éolienne d'ici 2035, la puissance moyenne générée quotidiennement passerait, selon une simple extrapolation, à 4600 MW. C'était « Le Québec dans le vent », un texte d'Alexis Riopel paru le 16 mai 2026 dans Le Devoir.
Le préjudice du doute, un éditorial de Louis-Maude Rioux-Soucy, publié dans Le Devoir du 22 mai 2026. En sous-titre, l'adhésion au conspirationnisme progresse, l'indécision aussi, menaçant le dialogue démocratique. La pandémie est derrière nous, mais le conspirationnisme vit encore des jours fastes. Il a même légèrement progressé partout au Canada. Si l'adhésion franche et convaincue à des théories complotistes reste marginale, le doute que de tels énoncés peuvent susciter, lui, gagne notablement du terrain. Cette indécision rampante est une très mauvaise nouvelle pour la santé du dialogue démocratique. Lorsqu'il s'emballe, le doute ouvre plein de portes par lesquelles peuvent s'engouffrer toutes sortes de théories fumeuses et de désinformations massives. Dans son récent rapport analysant l'évolution de l'adhésion au conspirationnisme au Canada et au Québec, la chaire UNESCO, en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, voit dans la progression de l'indécision, citation, « la face cachée de la hausse de l'adhésion au conspirationnisme », fin de citation. Ce constat devrait tous nous interpeller. Convenons d'abord que les termes « conspirationnisme » ou « complotisme » sont chargés. Leur utilisation prête aux critiques et aux raccourcis, et il importe d'en dépasser le vernis péjoratif. Or, ce n'est ni en dénigrant ni en niant ces théories qu'on freinera leur progression. Il faut plutôt aller à la racine du phénomène pour mieux le définir et comprendre à quels élans primordiaux il répond, ce que la chaire fait très bien. Dans leur rapport, où le Québec fait figure de bon élève, les francophones étant ceux qui adhèrent le moins aux énoncés conspirationnistes, ces chercheurs définissent le complotisme comme le fruit d'une « méfiance extrême » s'incarnant dans une « logique du ressentiment et de l'accusation » qui dépasse le simple soupçon. Son but, s'enraciner dans une vision du monde monochrome, sinon monologique, prévisible, où, citation, la plupart des événements actuels et historiques résultent de l'action secrète d'un groupe aux intentions malveillantes. Fin de citation. Au quotidien, ça donne des adeptes du complotisme qui croient plus que jamais à la nocivité des vaccins, 26,3% en 2021 contre 29,7% en 2025, qui voient dans notre gestion imparfaite de la COVID-19 rien d'autre qu'un prétexte pour conditionner la population à la docilité et à la répression de 17,3 à 21,8%. Ces braquages ne sont pas des phénomènes spontanés, remarquez. Ils sont le fruit de mauvaises communications répétitives, de désinformations massives et de bilans bâclés dont on paie aujourd'hui le prix fort. Les partisans du complotisme ont aussi consolidé d'autres obsessions. Celle voulant que l'immigration soit délibérément organisée par nos élites pour remplacer les Canadiens de 20,5 à 25,9%. Celle-ci affirmant qu'un groupe secret, friand de satanisme et de pédophilie, contrôle les gouvernements de 13,8 à 19,2%. Celle concluant que le réchauffement climatique n'existe pas, de 12,1 à 15,9. Ces croyances ne tiennent pas que sur du vent ou du sable. Elles ont souvent pour origine des déclarations ou des situations limites bien réelles que nos décideurs ont laissées pourrir. Pensez à l'Initiative du siècle, ce groupe de pression militant pour que la population canadienne atteigne 100 millions d'habitants d'ici 2100. Il est clair que leurs écrits et leurs actions auront aggravé, sinon tordu, nos récents déchirements sur l'immigration. Pensez aussi à cette manchette séduisante sur le front des dérèglements climatiques, voulant que les projections les plus pessimistes des experts se soient révélées « fausses », entre guillemets. Le danger s'éloigne. Il n'y a plus rien à voir, on conclut les climato-sceptiques. Si seulement c'était si simple. En fait, c'est une simplification excessive, pour ne pas dire fautive. La vérité, c'est que la crise climatique risque toujours de rendre le monde méconnaissable. C'est dans de tels interstices que le doute fait son nid, et c'est là aussi que s'opère le basculement vers le complotisme. Le renversement se fait d'autant plus aisément que la confiance est en baisse à l'endroit de toutes les institutions, qu'elles soient politiques, gouvernementales, médiatiques ou scientifiques. Leur fragilité exacerbée les empêche d'offrir la même résistance qu'avant aux théories du complot. Foisonnante, la pensée humaine n'a jamais pu compter sur autant de béquilles pour s'appuyer. Encyclopédie en ligne, infos en continu, flux incessant d'opinions prêtes à penser sur les réseaux sociaux, intelligence artificielle qui réfléchit obséquieusement à notre place. Tout ce bruit finit par brouiller même les esprits les plus aguerris. Les experts de la chair ont raison de nous prescrire un protocole de rétablissement de la confiance de toute urgence, car c'est bien là que, citation, « le ciment invisible des sociétés démocratiques » fin des guillemets, se fissure en premier. À son époque, Aristote voyait dans le doute, citation, le commencement de la sagesse, fin de citation. Force est de considérer qu'il a son revers dans notre monde polarisé et hyperconnecté. Quand le doute flirte avec la certitude butée au mépris des faits, c'est en effet signe que la bêtise et l'ignorance ne sont plus très loin ou ont déjà fait leur nid. Au bénéfice du doute, il faudrait pouvoir opposer son contraire, le préjudice du doute, et agir en conséquence. Fin de cet éditorial de Louis-Maude Rioux-Soucy, titré « Le préjudice du doute », publié dans Le Devoir du 22 mai 2026.